Espace, frontière de l'infini, vers laquelle voyage notre vaisseau spatial. Sa mission de 5 ans, explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies, d'autres civilisations, et au mépris du danger, avancer vers l'inconnu.
Si tu as reconnu le générique de Star Trek, tu ne peux pas manquer de constater ce que les séries télé et cinéma sur l'espace ont fait et font encore pour acculturer l'humanité à de nouveaux champs des possibles. On voit bien d'ailleurs que de nombreuses avancées en matière de numérique et de cas d'usage digitaux doivent beaucoup aux séries télé et ciné sur l'espace. Ce matin, un épisode un peu spécial, on en parle ici avec Laura de la Redac Room sur un live enregistré en direct sur Twitter Spaces. Bonjour Laura, comment ça va ?
Bonjour PPC, ça va bien et toi ?
Très bien, tu nous as donné cette belle idée de monter un épisode du podcast sur les meilleures séries télé et ciné sur l'espace. Globalement, on parle de quoi quand on parle de ces séries ?
Il y a déjà 2 ans, on avait fait un épisode sur tout ce que les séries télé avaient apporté en fait au digital, hein, la tablette de Star Trek qui est devenue l'iPad par exemple. Et là, je trouvais que c'était intéressant d'avoir un angle autour de la conquête de l'espace et la conquête de l'inconnu, parce que je crois que c'est un thème qui résonne beaucoup en cette période où d'abord on affronte quelque chose qu'on ne connaît pas, et ça fait longtemps qu'on ne s'est pas confronté à quelque chose qu'on ne connaît pas. Et en plus, il y a énormément d'avancées dans le monde réel vers cette conquête de l'espace avec évidemment les deux moguls, comme on dit en anglais, Elon Musk et Jeff Bezos, qui se sont attachés à faire de cette conquête une réalité.
Qu'est-ce qui est en jeu, selon toi, avec justement cette façon et cette exploration de l'inconnu ? Il se cache quoi derrière ça ?
Je pense qu'il se cache plusieurs choses. D'abord, je trouve ça extrêmement salutaire que ces séries nous rappellent qu'on ne sait pas tout. Et toi qui, je sais que tu m'écoutes et tu me lis régulièrement, tu sais que c'est un de mes grands credos d'accepter qu'on ne sait pas tout et qu'il faut continuer à chercher encore. Et j'adore les gens qui doutent et qui pensent qu'ils ne savent pas tout. Donc je pense que ça, c'est assez salutaire. Je pense que derrière, il y a quand même, comme à l'époque de Star Trek d'ailleurs, hein, ou de Cosmos 1999, qui a été extrêmement cité dans le tweet d'avant-émission, ça m'a amusé parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui s'en rappellent. Il y a aussi des forts messages politiques. Cosmos 99, c'était autour du nucléaire. Star Trek, c'était autour de l'humanité comme un ensemble et en pleine guerre froide, d'avoir un Russe sous les commandes d'un Américain, d'avoir le premier baiser homme blanc, femme noire, etc. Il y a des forts messages politiques qui peuvent être passés parce que comme on se projette dans l'anticipation, on est capable de démontrer et de montrer un monde qui n'est pas celui dans lequel nous vivons. Et donc, c'est très aspirationnel aussi au niveau sociétal et politique.
Bon, on va rebondir sur quelques tweets d'avant-émission, ça va nous donner plein d'idées de séries. C'est Lionel qui nous disait Cosmos 1999. C'est vrai que c'est pas tout jeune, ça passait dans les années 75, le samedi, avec un certain Bernard Gollet, et ça a pas mal influencé ces jeux de Lego, de Playmobil, avec la base Alpha sur la fameuse face cachée de la Lune, et Martin Landau en commandant de bord. Ça te rappelle des choses, toi, Laura, ça ?
Ah oui, moi j'étais absolument fan de Cosmos 99, je crois que Lionel et moi sommes absolument de la même génération et c'était génial parce que Cosmos 99 c'était vraiment ce saut dans l'inconnu, puisque pour ceux qui n'ont pas vu ou qui ne se rappellent pas de la série, la Lune se détache de son orbite suite à une explosion nucléaire sur la base Alpha et la Lune part. Et donc, il y a des gens qui sont sur cette base. Le commandant Martin Landau, joué par Martin Landau, décide de rester, de ne pas abandonner la base pour rentrer sur Terre, mais de rester sur cette base avec l'ensemble de l'équipe. Alors, on ne va pas appeler ça un équipage puisqu'il ne commande absolument rien sur la trajectoire, mais ils partent sur cette Lune détachée de son orbite. Alors là, on peut vraiment parler de saut dans l'inconnu et de choses qu'ils ne savent pas.
Claire, d'autres séries qui sont venues, et puis vous qui êtes en direct sur YouTube, sur Twitter et sur Twitch, n'hésitez pas à nous mettre aussi des séries sur l'espace qui vous ont marqué. C'est Alexandre qui nous rajoute la saga Mandalorian, ainsi que Buck Rogers, Battlestar Galactica, et puis la saga Star Trek, les visiteurs aussi, The Titan, Sense8 et les Sentai de X or Bioman. Une longue liste, hein, ça te rappelle des choses aussi, ça ?
Une longue liste, ouais. Je suis pas sûr qu'on puisse mettre Sense8 dans les séries de l'espace. C'est une série d'anticipation absolument fabuleuse que j'adore aussi, mais pour moi c'est pas vraiment une série de l'espace. Et je trouve que ce qui est un peu dommage, tu vois, dans ces séries de l'espace, enfin ce qui est dommage et ce qui est à la fois, c'est pas vraiment dommage d'ailleurs, c'est amusant, c'est qu'en fait on se rattache beaucoup à des vieilles séries. Alors Battlestar Galactica, certes il y a eu un remake absolument génial, mais à la base c'était quand même aussi une série des années 70, hein. Alors qu'en fait, il y a énormément de nouvelles séries, et moi j'aimerais bien qu'on parle des nouvelles séries qui ne sortent que sur les plateformes de streaming, donc qui n'ont pas le côté culture collective que pouvait avoir Cosmos 99 le samedi en 75, mais qui sont extrêmement bien faites, avec des acteurs de dingue, et qui posent aussi des questions sur justement le sens politique des sorties de ces séries.
Par exemple, tu penses à All of Mankind, c'est ça, sur Apple TV?
Alors je pense à For All Mankind, hein, For sur All Apple Mankind, TV, alors, ouais. Je pense à Away sur Netflix, je pense à The Right Stuff sur, je crois que c'est sur Apple TV aussi, The Right Stuff, qui est donc un remake en série de L'étoffe des héros, hein, pour ceux qui ont vu le film, absolument phénoménal. C'est pas vraiment un remake du film puisque c'est vraiment l'histoire de base de ces fameux héros des Mercury 7. Il y a également un docu-fiction qui s'appelle Mars, et toutes ces séries qui sont sorties, on va dire, dans les derniers 12 à 18 mois, pousse vraiment les limites de ce qu'on ne sait pas et commence à imaginer des choses beaucoup, beaucoup plus concrètes et beaucoup plus proches de nous que ce que faisait Star Trek, Cosmos 99 ou Battlestar Galactica, c'est-à-dire qu'elle se passe en 2030, en 2040, en 2050, donc on est très proche. Et ça, c'est assez novateur.
C'est vrai que c'est novateur. Isabelle nous signale aussi les 100, puis Perdu dans l'espace. C'est très chouette, nous dit-elle.
Ah, les 100, moi, j'ai adoré. Les 100, il faut savoir que c'est une série tirée d'un bouquin à la base, un bouquin pour teenagers, hein, qui part toujours, ça part toujours d'une catastrophe, hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, enfin, à part Star Trek, Cosmos 99, Battlestar Galactica, tout ça, ça part souvent de catastrophes et on parle beaucoup de la survie de l'espèce humaine. Et The Sun, c'est ça, en fait, il y a une catastrophe nucléaire qui détruit complètement la Terre, qui n'est plus habitable, et en fait, ceux qui croient être les seuls survivants sont dans des stations orbitales qu'ils arrivent à réunir, et au bout de 100 ans, ils envoient 100 jeunes de moins de 18 ans essayer de reconquérir la Terre, donc il leur arrive plein de choses, ça dure 7 saisons, c'est maintenant terminé, mais je vous la recommande.
Laissant à voir absolument comme autre série, est-ce que tu as une autre série? Je sais que tu es intarissable sur toutes les séries, est-ce que tu as une autre série coup de cœur?
Alors, on n'a pas parlé vraiment de Star Trek. Star Trek, c'est pas une seule série, c'est énormément de séries. Star Trek, c'est un univers créé par Gene Roddenberry, et je te remercie d'avoir mis le générique, hein. Mais Star Trek s'est renouvelé cette année avec deux autres séries. Alors, il y en a que vraiment je vous recommande parce qu'elles explorent des facettes de l'univers qui sont beaucoup plus sombres, en fait, que la série originale. D'abord, il y a eu Star Trek Discovery, donc c'est vraiment le tout début normalement le tout début de Star Trek, puisqu'on est bien avant Kirk. On est avec la sœur de Spock, dont on n'entend pas parler, en fait, dans le premier Star Trek, et on voit Spock plus jeune. Ensuite, on se projette 1000 ans après, donc c'est extrêmement intéressant. Et la deuxième, c'est Picard, où c'est vraiment la fin de vie de Picard qui n'a rien perdu de sa superbe.
Pas mal, bon, bah, ça fait des séries à suivre. Tiens, il y a Pierre qui nous recommande aussi, qui nous parle de The Expanse,
Altered Carbon
et Rise the Wolf.
Ouais, alors j'ai pas vu Rise the Wolf, merci Pierre de la découverte, parce que c'est rare que j'en connaisse pas. Donc je vais regarder Rise the Wolf. The Expanse, c'est aussi assez intéressant, c'est l'idée que la Terre a colonisé Mars, a créé aussi des stations orbitales dans ce qu'on appelle The Belt, la ceinture où les gens vivent, mais vraiment vivent, c'est-à-dire c'est des villes orbites. Et ils ne peuvent même plus revenir sur Terre parce qu'ils ne supporteraient pas la gravité, en fait, de la Terre. Et il y a des vraies querelles politiques. Alors, ce qui est assez étonnant dans The Expanse, c'est qu'on est vraiment sur l'homme est un loup pour l'homme. Un peu d'ailleurs dans The 100 aussi. Donc, on n'est pas du tout dans cette vision de l'humanité comme un tout qui va aller se battre contre des espèces aliens. On est vraiment sur des réelles, on va dire, le réel comportement de l'homme tel qu'il existe aujourd'hui. Alors, Altered Carbon, c'est et les deux d'ailleurs, The Expanse et Altered Carbon, comme The 100, sont tirés de bouquins à la base, hein. Altered Carbon, c'est l'histoire, on est dans un futur où tu peux garder ta vie, ta personnalité dans une puce qui est dans ton cerveau. Et donc la seule façon de te tuer pour de vrai, c'est de détruire ce disque dans ton cerveau. Évidemment, les très très riches peuvent se créer des copies de leur propre corps. Pour les autres, il faut qu'ils trouvent des corps dans lesquels mettre cette puce s'ils veulent revivre. Et ça me permet de faire la boucle avec William Shatner autour de comment est-ce qu'on peut faire survivre sa personnalité. William Shatner, qui a 90 ans aujourd'hui, va être le premier à tester de mettre son cerveau dans une IA pour vivre à tout jamais. Et c'est un article que j'ai découvert la semaine dernière, que je vous propose dans ma newsletter ce matin, et j'ai trouvé ça génial que ce soit William Shatner qui soit le premier testeur.
Fabuleux. Alors, c'est la journée des anniversaires aujourd'hui, puisqu'on est le 12 avril. Et rappelez-vous, le 12 avril 1961, c'est Sarah qui nous le rappelle, le cosmonaute Yuri Gagarin réalisait pour la première fois un vol spatial habité. C'est un exploit technique et humain, nous dit Sarah, qui ouvrait la porte à une aventure spatiale mondiale. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une journée très spéciale. Hein. C'est une journée anniversaire hein, c'est aujourd'hui. C'est pour ça que d'ailleurs, tu as choisi ce thème.
Oui, j'ai choisi ce thème. Et en plus, ça me permet de faire le lien. On est passé très, très rapidement sur For All Mankind et trop rapidement à mon sens parce que cette série mérite vraiment d'être vue, donc c'est sur Apple TV+. En fait, c'est une uchronie. Alors, moi j'adore les uchronies. Une uchronie, ça veut dire que ça, c'est pas du tout une dystopie, donc un futur lointain horrible. Ça transforme dans notre passé un événement, et là en l'occurrence, ça transforme le premier pas sur la Lune n'est pas américain, il est russe. Les Russes arrivent les premiers sur la Lune 10 jours avant juillet 69 et Armstrong. Et donc, comment le reste de l'histoire est modifié par rapport à ce point de départ différent. Et le deuxième twist qu'ils ont apporté, c'est que donc les Américains arrivent quand même à y aller, bien sûr, mais juste derrière, les Russes envoient une femme sur la Lune. Et donc, il y a un point de vue extrêmement fort de l'inclusion des femmes à la conquête spatiale, avec évidemment aussi bien dans les pilotes que sur les bases, que dans les ingénieurs, etc. Et vraiment, cette série est à voir parce que, et puis après, vous pouvez imaginer, est-ce que ça change des élections de président américain, est-ce que ça change des événements comme plein de choses. C'est passionnant et je vous la recommande.
Dans un autre registre, ça me fait penser un peu à The Man in the Hagers Castle, ou si c'était
exactement
les Allemands qui avaient gagné la guerre. Ça se passerait comment?
Une des très belles uchronies aussi disponibles en ce moment.
Bah, c'est pas mal les uchronies. Il faudra qu'on fasse un épisode sur l'uchronie, ce qu'elle nous apprend aussi, ce que ça nous permet de, comme matière à penser, matière à réfléchir. Magnifique. Je vous recommande à toutes et tous d'aller lire la newsletter de notre amie Laura, d'aller écouter son podcast aussi. Ça s'appelle Revue et corrigée. Mille merci, Laura, pour ton intervention ce matin, pour ce beau sujet qui nous ouvre un champ assez incroyable de séries sur l'espace à aller voir. Merci à toi.
Merci à toi, j'adore parler de ça.
C'est magnifique, tu es la bienvenue quand tu veux. Mes amis, mille merci d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à t'abonner à la série. Si tu l'as vraiment aimé, tu n'hésites pas à le partager autour de toi. Et puis si tu trouves ça vraiment canon, tu mets un commentaire 5 étoiles. Et si tu es sur Apple Podcast, ça fait juste un bonheur. Surtout pour l'algo, c'est important. Ça permet de faire rayonner le podcast. Je te laisse, on a encore rendez-vous un tout petit peu avec nos amis qui sont en direct sur YouTube, sur Twitter et sur Twitch. À tout de suite.